Nous revoici chez moi, dans mon appartement. Je vais reprendre l'Odyssée. Et c'est dans cette épopée d'Homère qu'on découvre pour la première fois ces créatures si musicales entre toutes, les sirènes.
Épisode 5. Les bienfaits des sirènes ou le charme d'un chant. Des récits d'Homère à Giono.
Elles ne sont pas vraiment décrites physiquement, on sait qu'elles sont au nombre de deux, et leur principale caractéristique, c'est leur chant. J'aime qu'elles apparaissent finalement phoniquement. On sait qu'il existe un grand danger, c'est le chant de ces sirènes, que si on entend le chant de ces sirènes, si on écoute le chant de ces sirènes, on sera tellement irrésistiblement attiré qu'on suivra ces sirènes jusqu'au fond de la mer et qu'on n'en reviendra absolument jamais. Après cette version d'Homère, le mythe évoluera et avec Apollodore, qui est un philosophe grec épicurien, les sirènes vont devenir des créatures hybrides, mi-jeune fille, mi-oiseau, ça laisse assez rêveur. J'en ai déjà vu des dessins plus ou moins monstrueux. Il y avait comme ça, je me souviens en avoir vu, on voyait des pigeons avec des seins et une tête de jeune fille, c'était franchement grotesque. Sinon, on voyait aussi des jeunes filles avec des ailes, c'était un peu plus proche de l'ange. C'est ça qui est extraordinaire dans la mythologie grecque, c'est qu'à partir des textes, on peut visualiser ces créatures de façon très différente, soit grotesque, soit franchement très belle. Pour Apollodore, elles sont trois. L'une joue de la lyre, l'autre chante et la troisième joue de la flûte. De toute façon, ça, presque tous les mythologues sont d'accord, presque tous les raconteurs de mythes sont d'accord pour dire que la principale caractéristique des sirènes, c'est leur chant.
Chant 12, dans l'Odyssée d'Homère. Oh, mes amis, je vais vous faire connaître les prédictions de la divine Circé, afin que vous sachiez tous si nous périrons ou si nous échapperons à la mort qui nous menace. Circé nous défend d'écouter les harmonieux accents des sirènes. Elle nous ordonne de fuir leurs prairies émaillées de fleurs, et elle ne permet qu'à moi d'entendre leur chant. Mais aussi, vous devez m'attacher avec des cordes et des chaînes au pied du mât élevé pour que j'y reste immobile. Si je vous implore et si je vous commande de me délier, alors entourez-moi de nouveaux liens. Tandis que j'apprenais à mes compagnons tous ces détails, nous apercevons l'île des sirènes, car notre navire était poussé par un vent favorable. Mais tout à coup, le vent s'apaise, le calme se répand dans les airs et les flots sont assoupis par un dieu. Les rameurs se lèvent, plient les voiles et les déposent dans le creux navire. Puis, ils s'asseyent sur les bancs et font blanchir l'onde de leurs rames polies et brillantes. Aussitôt, je tire mon glaive d'airain et je divise en morceaux une grande masse de cire que je presse fortement entre mes mains. La cire s'amollit en cédant à mes efforts et à la brillante lumière du soleil, fils d'Hyperion. Puis j'introduis cette cire dans les oreilles de tous mes guerriers. Ceux-ci m'attachent les pieds et les mains au mât, avec de fortes cordes. Ils s'asseyent et frappent de leurs rames la mer blanchissante.
Bien sûr, en tant que romancière, la première question que je me pose, c'est celui de la nature de ce chant. Pourquoi ce chant est-il à ce point irrésistible ? Moi, je brûle d'écouter le chant des sirènes. Je suis étonnée qu'il n'y ait qu'Ulysse qui soit dévoré de cette curiosité. Une musique qui risque de vous faire perdre la vie, mais est-ce que ce n'est pas la première musique que vous avez envie d'écouter ? Alors, Ulysse recourt à une ruse. Sa ruse est très intelligente. C'est ce qui fait qu'il me plaît beaucoup plus que les autres. Il est prêt à prendre le risque suprême parce qu'il veut découvrir l'extraordinaire séduction de cette musique. Donc il se fait ligoter au mât par ses hommes. Les autres hommes mettent de la cire dans leurs oreilles, les premières boules cuillesses. Et pour moi, c'est ça le mystère. Comment est-ce que les autres hommes peuvent renoncer à entendre ce chant d'une séduction tellement inimaginable ?
Quand, dans sa course rapide, le vaisseau n'est plus éloigné du rivage que de la portée de la voix, et qu'il ne peut plus échapper au regard des sirènes, ces nymphes font entendre ce chant mélodieux. « Viens, Ulysse, viens, héros fameux, toi, la gloire des Achéens. Arrête ici ton navire et prête l'oreille à nos accents. Jamais aucun mortel n'a paru devant ce rivage sans avoir écouté les harmonieux concerts qui s'échappent de nos lèvres. Toujours celui qui a quitté notre plage s'en retourne charmé dans sa patrie et riche de nouvelles connaissances. Nous savons tout ce que, dans les vastes plaines d'Ilion, Les Achéens et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre féconde. Tel est le chant mélodieux des sirènes que mon cœur désirait entendre. Aussitôt, fronçant les sourcils, j'ordonne à mes compagnons de me délier. Mais au lieu d'obéir, ils se couchent et rament encore avec plus d'ardeur. En même temps, Eurylochë et Périmède se lèvent, me chargent de nouveaux liens qui me serrent davantage. Quand nous avons laissé derrière nous ces rivages et que nous n'entendons plus la voix des sirènes ni leur accent mélodieux, mes compagnons enlèvent la cire qui bouche leurs oreilles et me dégagent de mes liens.
Homère dit que ces sirènes, dans leur chant, ont des paroles flatteuses, disent à Ulysse qu'il est un seigneur, qu'il serait beau, très intelligent, donc qu'elles flattent son narcissisme. Ça me déçoit un peu. Pour moi, ce n'est pas du tout la clé du mystère. Peut-être en effet que les paroles de la chanson sont des paroles qui flattent le narcissisme d'Ulysse, mais on se doute bien quand même que la véritable séduction, ce qui rend le chant des sirènes à ce point irrésistible, c'est pas quelques paroles de flatterie. Ulysse, il a déjà été pas mal flatté au cours de sa vie. C'est pas ça qui va le faire succomber. Tout porte à croire que ce qui rend ce chant si extraordinairement séduisant, c'est la beauté même de ce chant. C'est pour ça que je trouve tellement décevant ce qu'en fait la langue française. La langue française, comme beaucoup d'autres langues, j'imagine, a créé cette expression « oui, mais il a écouté le chant des sirènes, il a cédé au chant des sirènes », toujours dans un sens très très péjoratif. Une personne qui a écouté le chant des sirènes, c'est une personne qui a écouté de basses flatteries et qui est tombée dans l'erreur parce qu'elle a écouté de basses flatteries. Pour moi, mais ça n'est pas du tout ça. Le chant des sirènes, c'est prendre le risque d'écouter un chant d'une si grande beauté que peut-être on va enfin découvrir la vérité. Ça, c'est aussi une de nos vieilles traditions typiquement judéo-chrétiennes, mais aussi platoniciennes, d'opposer vérité et beauté. Il y aurait d'une part la vérité et d'autre part la beauté. Donc un chant aussi sublime que le chant des sirènes serait forcément un chant fallacieux, un chant qui nous entraînerait dans l'erreur. Mais moi, je pense exactement le contraire. C'est Proust qui a raison quand il dit que il ne faut pas opposer vérité et beauté parce que l'émotion que l'on éprouve à découvrir la beauté est exactement la même que celle que l'on éprouve à découvrir la vérité. Et c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup d'œuvres musicales me font penser au chant des sirènes, mais il y en a une en particulier. C'est celle de Lili Boulanger en 1911. Chez elle, les sirènes sont une cantate pour chœur à trois voix de femmes, donc ça se rapproche de Apollodore, c'est un trio. Et voici un extrait de la cantate que je vais lire. Nous sommes la beauté qui charme les plus forts, les fleurs tremblantes de l'écume et de la brume. Nos baisers fugitifs sont le rêve des morts. Je trouve ça extrêmement beau. Et ça correspond, ça correspond à l'idée que je me fais du chant des sirènes. C'est quelque chose de très beau, pas du tout de trompeur, au contraire de terriblement véridique, mais bien sûr qui suppose une force chez l'auditeur. Tout le monde ne peut pas l'entendre parce que pour encaisser une telle émotion, il faut être fort. On se sent enveloppé, on sent vraiment ce chant qui vient s'envelopper, s'enrouler autour de nous comme un lasso pour nous entraîner. C'est vraiment l'effet décrit par Homère, cette musique qui nous entraîne. C'est à la fois très délicat, très insidieux, on ne sent pas que c'est un poison subtil, mais évidemment qu'on va y succomber à cette musique. un livre que je pourrais vous recommander, c'est Le mythe des sirènes. Voilà, de Maurizio Bettini et Luigi Spina. Rien que la couverture de ce livre est un vrai chef-d'œuvre. Il y a ce dessin où on voit une jeune fille effroyablement séduisante qui se pend au cou d'un marin. Et on sent que le marin va succomber. C'est vraiment, c'est l'idée qu'on se fait de la sirène. C'est un tableau, donc on ne sait pas si elle chante, mais elle est déjà toute de séduction. Elle a cette façon d'entraîner là. C'est comme la musique de Lily Boulanger. Elle s'enroule autour de vous pour vous entraîner dans sa séduction. Dans ce livre, ce que j'aime, c'est qu'on nous explique que la sirène est née d'un préjugé de la société vis-à-vis des femmes, et en particulier vis-à-vis des femmes séduisantes. La séduction féminine est forcément quelque chose de dangereux, quelque chose qui va vous entraîner dans l'erreur, quelque chose qui va vous faire passer à côté de votre vie. Et c'est quand même terrible, ça. Alors que moi, je pense exactement le contraire. Je pense que la séduction féminine, c'est exactement ce qui va vous faire réussir votre vie. Que c'est en se laissant séduire qu'on va accéder à une réalité supérieure et peut-être même à l'épanouissement. En tout cas, même si elles sont toutes les deux des créatures très séduisantes, il ne faut pas confondre la sirène grecque, qui est une espèce d'oiseau, avec notre sirène des mythologies du Nord, qui a une queue de poisson. Alors, pourquoi à queue de poisson? Je ne sais pas très très bien, mais a priori, c'est plus séduisant. Autant les sirènes à corps d'oiseau qu'on a pu voir représentées sur certains motifs grecs étaient limite monstrueuses, autant la sirène à queue de poisson devient une créature très très séduisante, et il est plus facile de se la représenter comme belle. Bon, celle qu'on connaît le mieux, finalement, c'est la petite sirène de Copenhague, inspirée des contes d'Andersen. C'est très intéressant de voir, d'ailleurs, dans le conte d'Andersen, la sirène doit choisir entre avoir une très belle voix ou avoir des jambes. Deux modes de séduction vus comme un danger égal. Une très belle paire de jambes de femme ou une très très belle voix. Cela laisse rêveur. Et puis au XXe siècle, la sirène devient carrément un objet, comme par exemple la sirène de police ou l'ambulance. On peut aussi avoir des sirènes chez soi, dans les alarmes anti-vol. Bon, je ne sais pas si tout ceci est très flatteur pour les sirènes, parce qu'enfin, le chant de la sirène anti-vol ou de la sirène de police n'est pas très mélodieux. Mais en même temps, c'est très positif, parce que c'est quand même quelque chose de protecteur. C'est le contraire d'un danger, donc je suis assez d'accord avec cette version de la sirène, de l'objet sirène. J'ai déjà eu le sentiment de rencontrer des sirènes. Des sirènes hommes et femmes, d'ailleurs. Hein. Toute personne dont émane une séduction profonde et dont on sent qu'elle n'est pas fallacieuse, une séduction qui va vous apporter une nouvelle vision de la vérité, mérite d'être un ou une sirène. Les grands écrivains séducteurs sont des sirènes. Proust est une sirène. Je n'ai pas rencontré Proust, mais quand je lis Proust, je trouve que Proust est une sirène. Jean Giono est une sirène, et surtout dans son roman « Naissance de l'Odyssée ». Il réécrit les aventures d'Ulysse dans ce roman. Et même s'il n'y est pas question explicitement de ces créatures que sont les sirènes, Giono nous montre le pouvoir du chant mythologique, le pouvoir du chant littéraire. Je l'ai lu au tout début du confinement. Ça m'a d'ailleurs considérablement sauvée, parce que je venais non seulement de commencer ce confinement dont nous savons tous combien il a été dur, surtout vécu en ville, sans la possibilité de sortir, mais en plus je venais d'apprendre la mort de mon père. Donc j'étais dans le 36e dessous. Et vous savez, un livre qui peut vous faire entrer dans le charme quand vous êtes dans un état de souffrance pareil, c'est forcément un très très grand chef-d'œuvre. Et l'idée de Giono est la suivante. Donc c'est Ulysse qui revient chez lui. Bon, il a une histoire avec Circé, mais globalement, il n'est pas très glorieux. C'est un mendiant. Il est en très mauvais état physique. Il est considérablement maigri. Il a perdu ses muscles. Il a vraiment l'air d'un clochard. Et il rentre en effet à Ithaque, mais par le chemin des écoliers. Au cours d'une soirée dans une bourgade, il implore un petit peu la charité à un festin pour qu'on lui donne à manger. Et on lui dit, mais si tu veux être nourri, tu dois payer ton écho sous forme d'une histoire. Raconte-nous une histoire. Et il se met à raconter ce qui serait l'Odyssée. Et il raconte avec un talent extraordinaire, mais on comprend qu'il ment, il invente. Il raconte des histoires qui ne lui sont pas arrivées. Bon, il lui est arrivé 2-3 trucs, il y a eu la guerre de Troie, il a bel et bien rencontré Circé, il a bel et bien rencontré Calypso, mais il se donne un beaucoup plus beau rôle dans l'histoire qu'il raconte qu'en vrai. Moyennant quoi, l'auditoire est subjugué, mais c'est l'hystérie. Non seulement on lui donne à manger, mais on dit mais quelle histoire sublime, mais quel événement. On n'a jamais entendu une histoire aussi fabuleuse que celle-là. Et aussitôt, Ulysse a très, très mauvaise conscience parce qu'il se dit, bon sang, mais qu'ai-je fait ? J'étais simplement hâbleur, je voulais raconter mon histoire pour me faire valoir et aussi pour avoir ma part du festin. Et voilà que ça a beaucoup trop bien marché. Il a mauvaise conscience et il s'enfuit vers Ithaque, mais partout où il va, il entend parler de l'Odyssée. Des gens qui ne lui adressent même pas la parole disent oh, « Vous avez entendu parler de cette sublime Odyssée. Espérons que des aides la répercutent jusqu'ici. On n'a jamais entendu un chant aussi beau, avec des histoires aussi belles. C'est tellement sublime. Quand on l'entend, on est subjugué. » Et Ulysse, chaque fois qu'il entend ça, a de plus en plus honte parce qu'il sait qu'il est à la base de ce chant et qu'il a tout simplement menti parce qu'il est habile à mentir, il est habile à se faire valoir par des histoires, par de beaux mensonges. Bon, avant d'arriver à Ithaque, il entend dire par des indiscrétions que Pénélope a succombé au charme d'un jeune homme qui est le bel âtre de l'île et qui a l'âge d'être son fils. Donc non seulement elle n'a pas été fidèle, mais enfin elle a eu des histoires avec le coq du village et qu'en plus elle est bien contente et qu'elle espère bien qu'Ulysse ne va pas rentrer tellement elle est contente avec son coq de village. Bon, alors on sent qu'Ulysse est un petit peu refroidi par tout ça. Il se demande vraiment s'il va se faire reconnaître. En plus, il a tellement piètre apparence, parce qu'entre-temps, il a toujours son apparence de mendiant maigre et qui a perdu ses muscles et qui est précocement vieilli. Il va revoir Pénélope, qui, elle, est toujours très belle, forcément. Elle vit une histoire sensuelle et florissante avec un beau jeune homme, qui est une très belle femme de 40 ans, une très belle cougar, qui a une histoire avec un petit jeune. Et elle ne reconnaît absolument pas Ulysse dans ce pauvre loqueteux qui ne ressemble à rien. Mais elle a entendu parler de l'Odyssée et elle est comme tout le monde, elle voudrait entendre ce si beau chant, cette si belle histoire qui subjugue tout le monde. Et elle demande au mendiant, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous pourriez... Et on sent que le mendiant fait son mystérieux, peut-être, mais c'est pas impossible, mais il faudrait pour ça que vous m'invitiez à dîner chez vous. Et puis alors finalement, elle l'invite. Et en même temps, Ulysse dit 2-3 paroles qui sèment le doute dans l'esprit de Pénélope, parce qu'il veut pas l'embarrasser. Il sait bien que sa femme l'a trompé, mais il veut pas lui mettre son nez dans sa faute. Il l'a trompé aussi. Il veut pouvoir reprendre sa place avec dignité. Et au cours du repas, il va commencer son chant de façon à se faire reconnaître. Et alors, à un moment, le jeune homme dont j'ai oublié le prénom, le bel âtre, l'amant de Pénélope, va dire « Mais c'est pas possible, ça peut pas être toi, Ulysse, le héros de toutes ces histoires magnifiques. Ça peut pas être ce vieillard loqueteux, maigre, en mauvaise santé. » Et tout à coup, Ulysse se lève et dit « Mais oui, c'est moi. » Et il est tellement fort de toute l'histoire qu'il a racontée que le jeune homme s'enfuit en courant et Ulysse le poursuit jusqu'à ce que le jeune homme tombe dans le vide et meure. Ulysse revient comme si de rien n'était chez lui, reprend sa femme, feint de ne pas avoir remarqué que sa femme l'a trompé. Entre-temps, sa femme l'a reconnu, a compris que toutes ces histoires étaient vraies. Elle se pâme d'amour pour lui. « Mon chéri, je t'ai toujours attendu. » »« Mais oui, ma chérie, je n'en ai jamais douté. » Bon, et alors... Il y a une chute qui est absolument extraordinaire. C'est Télémaque, le fils d'Ulysse, qui renacle, qui n'a jamais connu son père, qui dit « C'est quoi ce type ?» Il a vécu des histoires tellement extraordinaires. Enfin, Télémaque s'enfuit et on le retrouve 5 ans plus tard. Et lui a vraiment vécu des histoires extraordinaires. Il a vraiment vécu des drames aussi colossaux que ceux qu'Ulysse raconte dans son histoire. Mais Ulysse lui dit « Eh bien, vas-y, raconte-nous ton histoire. » Mais Télémaque, qui lui a vraiment vécu ses faits, est incapable de le raconter parce qu'il raconte mal, il est comme tout le monde, il dit la vérité et il l'a dit tellement que c'est très mal raconté et que tout de suite les gens lui disent « Non mais tais-toi, tu nous ennuies, ça peut pas être vrai tes histoires, c'est beaucoup trop ennuyeux. » Et donc finalement c'est le triomphe du mensonge, c'est le triomphe de l'histoire admirablement racontée. C'est pour moi le triomphe de la littérature parce que pour moi Ulysse n'est pas un menteur. Même dans la version de Giono, il raconte des fictions. Mais quand on raconte une fiction à son point d'incandescence, on n'est pas dans le mensonge. L'histoire devient vraie parce qu'on lui a donné corps, on l'a racontée avec tellement de talent qu'elle devient vraie. Voilà.